Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, 3 auditions en 48 heures pour le ministre de l'Intérieur. Sommet de s'expliquer sur les failles qui ont permis aux tueurs de la préfecture de Paris de passer inaperçus alors que l'enquête progresse. On va le voir. Emmanuel Macron, lui, préside à 11 heures une cérémonie d'hommage aux 4 victimes. On voit ça après les autres titres, Agnès.
Le haut commissaire à la réforme des retraites reçoit ce matin les syndicats enseignants pour tenter de déminer le terrain. La volte-face de Donald Trump dans le dossier syrien, la lutte contre les violences conjugales avec une initiative en Charente-Maritime, le suivi renforcé des maris violents et de leurs victimes, et puis une expo événement à l'Institut du Monde Arabe, Alula, l'oasis aux 7000 ans d'histoire.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Comment comprendre les déclarations erratiques et contradictoires de Donald Trump depuis 24 heures sur la Syrie ? Honte au lâchage des Kurdes, a-t-il tweeté hier quand Trump annonçait le retrait américain avant de faire marche arrière, défenseur acharné de la cause kurde. Bernard-Henri Lévy sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec Loïc Blondiot. Il est professeur de sciences politiques, également membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Les investigations menées depuis jeudi dernier lèvent peu à peu le voile sur la radicalisation de l'assaillant de la préfecture de police de Paris. Hier, en fin de journée, on apprenait ainsi que des clés USB ont été découvertes lors de la perquisition au domicile de Michael Harpon à Gonesse, dans le Val-d'Oise. Des clés USB qui sont en cours d'analyse, mais qui contenaient, Jean-Philippe Degnaud, des vidéos de propagande de Daesh et les coordonnées de plusieurs de ses collègues policiers.
Ces deux découvertes, si elles se confirment, dressent un profil un peu plus inquiétant de Michael Harpon. Selon des sources policières, pas encore confirmées par le parquet, une des clés USB saisies lors des perquisitions effectuées dès jeudi dernier au domicile et dans le bureau du tueur contenait des vidéos de propagande de Daesh. Mais les enquêteurs ont également découvert un listing d'une dizaine de collègues de Michael Harpon avec leurs coordonnées et quelques éléments personnels. Il est encore trop tôt pour savoir si cette liste n'est qu'un simple document de travail auquel l'agent chargé de la maintenance informatique avait normalement accès, ou s'il s'agit d'un fichier qu'il avait spécifiquement créé. Trop tôt également pour savoir si ce document a été partagé avec certains de ses contacts et notamment des individus susceptibles d'appartenir à la mouvance islamiste salafiste que les enquêteurs ont déjà identifié dans l'environnement de Michael Harpon.
Les 4 victimes de Michael Harpon, Aurélia, Anthony, Brice et Damien, seront décorées de la Légion d'honneur à titre posthume ce matin lors d'une cérémonie officielle dans la cour de la préfecture de police de Paris. Cérémonie qui doit débuter à 11h et au cours de laquelle Emmanuel Macron prendra la parole. Une cérémonie en présence bien sûr du ministre de l'Intérieur, entre 2 auditions pour Christophe Castaner, qui doit être interrogé ce matin à 9h à huis clos avant d'être entendu en fin d'après-midi par la commission des lois de l'Assemblée et jeudi par la commission des lois du Sénat. Première audition donc ce matin par cette délégation parlementaire au renseignement, présidée par un sénateur LR. C'est une instance soumise au secret défense. Alors de quoi s'agit-il ? Élément de réponse avec Corinne Audouin.
4 sénateurs et 4 députés composent cette délégation créée il y a 12 ans pour contrôler l'action du gouvernement en matière de renseignement. Les parlementaires se réunissent une fois par mois dans la plus grande discrétion au sous-sol de l'Assemblée nationale sans leur téléphone portable. Car la délégation a accès aux informations couvertes par le secret défense. Au-delà de l'attaque à la préfecture de police, les parlementaires veulent identifier ce qui peut être amélioré. La présidente LREM de la commission des lois de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, est membre de la délégation.
Je ne cherche pas particulièrement la faute, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'assurer la sécurité de tous. Et donc, il s'agit vraiment de savoir, est-ce que nos procédures doivent être renforcées ? Est-ce qu'on peut être plus efficace ? Quel est ce qu'on appelle le criblage à l'entrée dans les services ? La question qui se pose, c'est l'après, la suite, le suivi. Comment évalue-t-on, réévalue-t-on régulièrement le niveau de sécurité du personnel ? Donc, cette question se pose de façon aiguë.
Pas question d'empiéter sur l'enquête judiciaire menée par le parquet antiterroriste. La délégation parlementaire travaille sur le temps long, même si, exceptionnellement, une partie de ses conclusions sera rendue publique.
Toutes les fois où le ministre de l'Intérieur a parlé trop vite cette année, c'est à lire sur franceinter.fr. Irréaliste pour les uns, inapplicable pour les autres, l'idée des quotas évoquée hier par Édouard Philippe lors du débat à l'Assemblée sur l'immigration n'a pas convaincu les rares députés présents dans les l'hémicycle hier soir. La ministre de la Santé, de son côté, a plaidé pour le maintien de l'aide médicale d'État, mais avec une lutte plus efficace contre les abus. On y reviendra dans le journal de 8h. Autre sujet également très sensible, les retraites. Les actuels retraités maintiennent la pression avec une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui. Et dans le même temps, Alexis Morel, le haut commissaire à la retraite, Jean-Paul Delevoye, reçoit les syndicats enseignants pour tenter de les rassurer.
Emmanuel Macron l'a lui-même reconnu, les enseignants seront lésés si le passage au nouveau système de retraite ne s'accompagne pas d'autres changements dans la carrière des profs. Pourquoi ? Parce que leur retraite sera calculée sur l'ensemble de leur vie professionnelle et non plus le salaire des 6 derniers mois. Et qu'en plus, contrairement aux autres fonctionnaires, les profs ne peuvent pas compter sur la future prise en compte des primes pour la retraite, car pour l'instant, ils en touchent peu des primes. Le chef de l'État veut donc réfléchir à des compensations, salariales notamment, mais il pose ses conditions.
Il faut qu'on arrive à ce que la carrière progresse davantage. Comment on paye mieux ? Comment du coup, parce qu'on paye mieux, peut-être on change aussi le temps de travail, qu'on regarde aussi les périodes de vacances par rapport aux autres.
Discuter du temps de travail, des vacances à l'occasion de ce chantier des retraites, hors sujet pour Francette Popineau, porte-parole du syndicat SNUIPP.
Il ne faut surtout pas utiliser le dossier des retraites pour dégrader davantage les conditions de travail des enseignants. On doit augmenter aujourd'hui les professeurs sans revoir leur temps de travail. Ce n'est pas un sujet.
Les négociations à venir s'annoncent donc délicates, même si l'exécutif promet pour les profs une longue période de transition vers le nouveau système de retraite.
En colère aussi aujourd'hui des agriculteurs qui posent cette question. France, veux-tu encore de tes paysans ? À l'appel de la FNSEA, les agriculteurs s'apprêtent à bloquer entre 10 et 14 heures plusieurs grands axes routiers un peu partout en France. Eux dénoncent l'inaction criminelle des gouvernements face à la crise climatique. Quelques centaines de militants du mouvement Extinction Rébellion ont passé la nuit place du Châtelet à Paris.
Il est 7h07, volte-face de Donald Trump sur la Syrie.
24 heures après avoir annoncé un retrait des troupes américaines du nord de la Syrie, le président américain fait machine arrière et évoque le départ de seulement 50 à 100 membres des forces spéciales. Pas question donc d'abandonner les alliés kurdes et de laisser le champ libre à la Turquie. Il faut dire, Grégory Philips, que l'annonce du retrait avait provoqué un déluge de réactions indignées.
Dimanche, en fin d'après-midi, Donald Trump s'entretient au téléphone avec le président turc Erdogan. Puis à 23h, heure de Washington, tombe le communiqué de la Maison-Blanche qui, en 11 lignes et 2 paragraphes, stipule que les troupes américaines vont se retirer de cette zone frontalière entre Turquie et Syrie et qu'Ankara s'apprête à lancer une opération planifiée depuis des mois. Lundi matin, 7h, Donald Trump appuie cette déclaration par une salve de tweets dans lesquels il confirme que son pays va sortir de ces guerres coûteuses et interminables. Quasi immédiatement, ses alliés républicains lui tombent dessus à bras raccourcis. Décision irresponsable, commente l'influent sénateur Lindsey Graham. Abandonner les forces kurdes restera comme une tâche sur l'honneur de l'Amérique. Nikki Haley, l'ex-ambassadrice aux Nations Unies, ajoute: laisser mourir nos alliés kurdes serait une énorme erreur. Alors hier soir, juste avant de recevoir des militaires à la Maison-Blanche, Donald Trump précise: il ne parlait du retrait que de 50 membres des forces spéciales américaines. Et surtout, il menace désormais la Turquie, dont l'opération contre les Kurdes semble imminente. J'ai dit à la Turquie: si vous faites quoi que ce soit d'inhumain, alors on frappera très durement votre économie. La diplomatie de Trump fluctue d'heure en heure. Toute la journée d'hier, le Pentagone a paru extrêmement embarrassé. Washington, Grégory Philips, France Inter.
En Allemagne, un homme a volé un camion hier après-midi avant de percuter plusieurs voitures faisant une dizaine de blessés à Limbourg près de Francfort. Le suspect lui-même blessé a été interpellé. L'enquête est en cours pour déterminer les raisons de son geste. En bref, encore la cure d'austérité des parlementaires italiens qui s'apprêtent à voter une forte réduction du nombre d'élus qui va passer de 945 à 600, soit une économie de 500 millions d'euros par législature. C'était une promesse du mouvement 5 étoiles. Retour en France avec cette initiative en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Le parquet de Saintes, en Charente-Maritime, a inauguré il y a 15 jours un nouveau dispositif, une assistante sociale qui suit l'auteur des violences et sa victime pour éviter toute récidive. 3 hommes se sont portés volontaires. Marine Portrait a suivi l'un d'eux. Reportage.
C'est un coup de poing porté au visage de sa compagne qui l'a conduit devant la justice. Sous l'emprise d'alcool, cet homme, qui préfère rester anonyme, l'a frappée plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle décide de porter porter plainte, mais elle refuse toute mesure d'éloignement. Le couple dit s'aimer, lui promet de faire des efforts. Alors depuis 2 semaines, il est suivi par un agent, une femme qui a changé sa vie.
J'ai une personne qui me suit, qui est très agréable, comme un ange gardien tout simplement. S'ils n'avaient pas été là, je serais tombé encore plus bas que je ne le suis déjà. Au bout de 25 ans d'alcoolémie, si on n'est pas aidé par une structure vraiment forte, il est trop facile de retomber. Donc actuellement, je suis fier d'être suivi par ce système. Ça me permettra de sortir de cette spirale infernale.
Et pour en sortir, il a des obligations à respecter. Elles peuvent varier d'un cas à l'autre, explique Nicolas Sept, le procureur de Sainte.
Parfois, ça va se traduire par une obligation de soins, parce que la plupart du temps, les violences sont commises avec de l'alcool ou sous l'emprise de stupéfiants. Parfois, ça va se traduire par l'obligation de rechercher une activité professionnelle, de faire des démarches en ce sens. Parce que l'objectif pour nous, magistrats, c'est finalement de ne plus avoir de dossier à traiter.
Le procureur fera le bilan du suivi renforcé dans 1 an, mais il est optimiste. En se basant sur les chiffres du Canada, où le dispositif existe déjà, il affirme que les risques de récidive sont de 10% contre 55% lorsque l'auteur de violences conjugales est placé en détention.
Le reportage de Marine Protet de France Bleu La Rochelle. Les députés ont adopté hier un amendement pour mettre un terme à la technique dite du bébé médicament. Un bébé conçu dans le but de guérir un frère ou une sœur aînée atteint d'une maladie génétique. La technique fonctionne grâce à un double diagnostic préimplantatoire mais pose des questions éthiques complexes. La loi votée en 2004 sera donc abrogée. Enfin, c'est un site très peu connu du grand public et qui renferme pourtant des trésors archéologiques fascinants. La région d'Aloula, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, est à l'honneur dans une exposition à l'Institut du Monde Arabe à partir de demain. Bastien Munch.
Ce qui frappe sur ces écrans géants, c'est d'abord l'immensité d'Aloula, ses roches monumentales, ses oasis luxuriantes au beau milieu du désert. Laila Némé participe aux fouilles sur site depuis 17 ans. Elle est l'une des 2 commissaires de l'exposition Aloula, merveille d'Arabie.
Pour la première fois, il y a une structure fouillée dans la région d'Aloula qui a mis au jour un certain nombre de vestiges de à peu près exactement 5000 avant Jésus-Christ. Donc c'est la longévité qui est intéressante.
Longévité qui a vu se succéder les peuples, notamment les célèbres Nabatéens venus de Petra en Jordanie et à l'origine de tombeaux spectaculaires creusés dans les roches d'Aloula il y a plus de 2000 ans. Le site va bénéficier d'un large projet de développement touristique, notamment impulsé par la France grâce à l'Agence française de développement d'Aloula. 6 nouveaux musées, un institut d'art et d'archéologie et même un centre expérimental sur les parfums et l'encens vont sortir de terre. Jean-François Charnier est le directeur scientifique de cette agence.
On est là pour à la fois révéler quelque chose qui existe déjà, mais simplement trouver les formules culturelles, muséales pour en parler. On va essayer de travailler beaucoup avec les communautés sur le plan de l'urbanisme et notamment des mobilités. Les visiteurs n'arriveront pas en bus au pied des sites, mais on va essayer de trouver des formules très contemporaines, très futuristes.
Un projet à la symbolique très forte, alors que sur la scène internationale, l'Arabie Saoudite est toujours très contestée quant à la question des droits de l'homme dans le pays.
Aloula, merveille d'Arabie, l'oasis aux 7000 ans d'histoire, c'est à découvrir donc à l'Institut du Monde Arabe à Paris jusqu'au 19 janvier.
Merci Agnès Soubiran.